France Culture.
Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir et bonne année Aurélie.
Merci, bonsoir Quentin. Meilleurs vœux à toutes et à tous. La Nouvelle-Orléans en deuil après une attaque à la voiture Bélier. Le FBI mène une enquête pour acte de terrorisme. Nous reviendrons sur les faits avec Loïc Loury. Peut-on croire à la fin de la censure en Syrie? Le nouveau pouvoir promet en tout cas de garantir la liberté d'expression. Nous joindrons notre correspondant à Damas, Mohamed Erami. À Mayotte, les établissements scolaires veulent retrouver leur vocation d'origine et préparer la rentrée. Les familles hébergées dans les écoles doivent donc trouver un autre toit. Reportage de Mathieu Laurent, notre envoyé spécial à Mamoudzou. En 2025, Emmanuel Macron va demander aux Français de trancher des sujets déterminants. Comment faut-il comprendre cette déclaration du chef de l'État? De quelle manière et sur quel sujet pourrait-il consulter les Français? Nous y réfléchirons avec Rosalie Lafarge. Les célébrations du Nouvel An ont viré au cauchemar à la Nouvelle-Orléans. Dans cette ville réputée pour ses concerts et sa vie nocturne, le conducteur d'un pick-up a foncé à pleine vitesse dans la foule. Au moins 10 personnes ont été tuées et 35 blessées. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Aurélie.
Le FBI enquête sur un possible acte terroriste. Que sait-on à ce stade de cette attaque et de ce qui a pu motiver son auteur ?
Eh bien écoutez, le FBI s'était d'abord montré prudent, mais dit effectivement enquêter désormais sur un possible acte terroriste, au moins 10 morts donc, et 35 blessés après qu'un pick-up a foncé sur la foule dans le French Quarter, le carré français, un quartier historique de la ville et surtout extrêmement fréquenté de la Nouvelle-Orléans, d'autant plus bien sûr en période de fête. Ces événements se sont déroulés très tôt ce matin, vers 3h15, en pleine célébration du Nouvel An. Le véhicule en question a foncé sur une foule compact, à très vive allure, expliquent les autorités. Et cela de manière très intentionnelle, disait tout à l'heure la chef de la police locale. Il était déterminé, assure-t-elle, à écraser le plus de gens possible. L'assaillant, lorsque son véhicule s'est écrasé, a ensuite ouvert le feu. Deux policiers ont été blessés, mais l'individu en question, lui, a été tué suite à ces échanges de tirs. On sait qu'un engin artisanal, peut-être explosif, a été retrouvé. On n'en connaît pas la nature exacte, pas plus d'ailleurs que l'identité ou les motivations du forcené. Une conférence de presse est sur le point de commencer. Le président américain Joe Biden, lui, s'est entretenu avec la maire de la ville pour lui offrir toutes les ressources des autorités fédérales. Nous ne tolérerons pas, dit-il, aucune attaque contre les populations de notre pays.
Merci Loïc Loury, vous étiez en direct de New York. Cette attaque à la voiture Bélier fait penser à celle du marché de Noël de Magdebourg en Allemagne le 20 décembre. Les motivations de l'auteur ne sont toujours pas très claires à ce jour, mais le gouvernement allemand estime que ce médecin saoudien était atteint de troubles psychiatriques. Le danger ne dissuade pas les candidats à l'exil. L'année 2024 a été la plus meurtrière pour les migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Au moins 76 personnes sont mortes en un an. Mais c'est la Méditerranée centrale qui est la route migratoire la plus meurtrière au monde. 20 migrants sont actuellement portés disparus au large de l'île de Lampedusa en Italie. Le bateau qui a fait naufrage était parti de Libye. 7 personnes dont un enfant ont pu être secourues. Il s'agit de Syriens, de Soudanais et d'Égyptiens. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait le décompte de près de 14 années de guerre. Selon l'ONG, plus de 528 500 personnes ont été tuées depuis le début du conflit. Depuis que le groupe islamiste HTS a pris le pouvoir, les Occidentaux se demandent dans quelles conditions va s'effectuer la transition politique. Pour les rassurer, le nouveau gouvernement syrien multiplie les promesses et alors que le précédent régime a muselé les médias, il s'engage à garantir la liberté d'expression en Syrie, Mohamed Erami.
Contrairement à la répression des libertés et aux restrictions imposées au journalisme et aux médias pendant plus de 50 ans, sous le régime de la famille Assad en Syrie, le nouveau ministre de l'information syrien, Mohamed Al-Omar, a promis de travailler rapidement à établir une presse libre, garantissant aux différents médias la liberté d'expression. Al-Omar a déclaré dans des propos à la presse que l'époque où les médias étaient utilisés comme des instruments au service du régime était révolue et que les médias en Syrie seront désormais libres. Ils pourraient être capables de transmettre la réalité politique, sociale et économique du pays avec honnêteté et expertise. Le nouveau ministre de l'Information n'a pas limité ses propos à l'avenir, mais a également rassuré les journalistes ayant travaillé sous le règne de Bachar al-Assad, affirmant qu'ils étaient contraints d'obéir aux directives de Bachar al-Assad et du parti Baas au pouvoir. La télévision officielle était le seul moyen de communication en Syrie et il existe un certain nombre de journaux quotidiens et hebdomadaires parmi lesquels les journaux Al-Bath et At-Tawra, mais ce que ces médias diffusaient et publiaient était entièrement contrôlé par l'ancien régime.
Mohamed Erami à Damas pour France Culture. La Corée du Sud, qui a connu dimanche la pire catastrophe aérienne de son histoire, est toujours en deuil. Un mémorial a même été installé dans la capitale pour que les citoyens puissent se rendre hommage aux 179 personnes qui ont péri dans l'accident. Reportage à Séoul de Camille Ruiz.
Des centaines de personnes font la queue devant la mairie de Séoul. Vêtements noirs, yeux rouges pour la plupart, ils attendent leur tour pour se recueillir devant un hôtel sobrement décoré de fleurs blanches. C'est ici que la ville a installé un mémorial en l'honneur des victimes de l'accident aérien de Muan. Kim Yuna, lunettes et chapeau noir, essuie discrètement ses larmes. Cette retraitée de 80 ans est venue seule rendre hommage aux 179 personnes qui ont perdu la vie dans la catastrophe.
Je suis venue parce que c'était trop dur de seulement rester à la maison. J'ai beaucoup pleuré, ça me brise le cœur, c'est une perte immense.
Kang Min-jung est mère de famille. Elle a amené ses deux petits garçons qu'elle tient tout près d'elle et tente de se retenir de pleurer.
C'est tellement déchirant. Des enfants, des familles entières sont mortes. J'ai pensé que venir me recueillir ici était la seule chose que je puisse faire.
Kim Jong-sik, retraité de 69 ans, est aussi accompagné de son fils.
Ça aurait pu être moi, mon enfant ou mes parents. Nous sommes tous touchés. La fin de l'année est censée être une période joyeuse, mais il y a eu cette catastrophe, alors je pense que nous devons faire notre deuil tous ensemble.
Selon des agents de la mairie de Séoul, près de 14 000 personnes se sont déjà recueillies devant l'hôtel depuis son installation le 31 décembre au matin. Le mémorial sera retiré à la fin de la semaine de deuil national, le 4 janvier prochain.
Et l'enquête sur les circonstances de l'accident avance. Des données ont pu être extraites de l'enregistrement vocal du cockpit et elles vont être envoyées aux États-Unis pour y être analysées. Depuis ce matin, il est interdit de fumer dans les rues de Milan, en Italie. En Belgique, ce sont les puffs, ces cigarettes électroniques jetables au goût souvent fruité et très prisé des ados qui sont interdites depuis ce matin, une première en Europe. La mesure s'inscrit dans le cadre d'un plan national anti-tabac en Belgique. À Bruxelles, Elsa Loison a rencontré hier des jeunes consommateurs qui se dépêchaient de faire des provisions juste avant l'interdiction.
Dans cette galerie marchande à quelques pas de la Grand Place, les stands de puffs ont été pris d'assaut par un public très adolescent. Grégoire et Juliette, 14 ans tous les deux, sont venus faire des stocks.
J'ai pris 3 puffs, une 5% et deux 2%.
Dans leurs mains, des puffs à la pastèque, au raisin, à la banane, mais qui contiennent entre 2 et 5% de nicotine. Et tous les deux le reconnaissent, sans les puffs qu'ils ont découverts à l'âge de 12 ans, ils n'auraient pas commencé à fumer.
Nous, c'est à cause de ça qu'on a commencé, parce que c'était méga simple d'en trouver, et comme on était juste à côté à l'école, on venait ici et nos parents ne savaient pas.
En interdisant les puffs, c'est précisément cela que les autorités de santé belges veulent éviter. Dans la file, la plupart des consommateurs comprennent, voire soutiennent la mesure. À l'instar de Paul, l'un des rares trentenaires à faire la queue, venu acheter un puff pour sa soirée du nouvel an.
C'est clairement une crasse ce truc, hein. En plus, ça pollue à mort, c'est pas bon pour l'environnement non plus. Donc oui, je pense qu'en vrai, c'est une bonne chose. On fera 100, quoi.
Chez les ados, on comprend aussi, mais on n'envisage pas pour autant d'arrêter. Grégoire et Juliette sont déjà en train de chercher des solutions pour continuer à acheter des puffs.
Je sais pas encore, mais on va d'office trouver un moyen d'en trouver d'autre part, quoi.
Ouais, dans des petits magasins.
D'ici quelques mois, la France devrait à son tour interdire les cigarettes électroniques jetables. En Angleterre, les puffs seront interdits d'ici l'été.
Les vols commerciaux reprennent au départ de Mayotte, une reprise progressive pour ne pas perturber l'envoi d'aide et de personnel dans l'archipel où les besoins sont encore immenses. La rentrée scolaire se prépare à Mayotte et pour tenir l'échéance du 13 janvier, les écoles, collèges et lycées transformés en centres d'hébergement d'urgence après le passage du cyclone Chido doivent être évacués. Depuis le 15 décembre, le lycée Bamana de Mamoudzou hébergeait plus de 600 réfugiés et demandeurs d'asile africains, principalement originaires de la région des Grands Lacs. Alors, que va-t-il leur arriver? Écoutez le reportage de Gilles Gallinaro et Mathieu Laurent.
Pour la première fois depuis le 15 décembre, aucune distribution de nourriture. On a coupé l'eau, l'électricité, ce qui laisse augurer d'une évacuation imminente.
Ils sont venus nous alerter que, ok, vous tous, vous allez sortir dehors, on vous dégage dehors. Et nous, on a dit non, c'est impossible.
Jusqu'alors, c'est Marcel, ressortissant congolais, qui gérait la répartition des vivres.
On nous a donné beaucoup d'espoir depuis les cyclones. Mais là, aujourd'hui, à la fin, ça sera scandaleux aujourd'hui. Tout le monde ici, ils ont refusé de sortir. Donc ce sera une bousculade.
À son côté, trois jeunes femmes, dont Grace, elle aussi, congolaise.
On va aller où? Où? On n'a pas de maison, tout est détruit, tout est détruit. On est réfugiés. Bon, on n'est pas protégés. Si on n'est pas protégés, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des femmes ici qui ont des enfants avec des bébés. Tous ces enfants-là, ils vont aller où? Ils vont les mettre dehors?
Pour prendre la mesure du désarroi de ces réfugiés et demandeurs d'asile, il faut se souvenir qu'ils ont été la cible de comités de quartier dits de vigilance entre l'été 2023 et le printemps dernier. La plupart d'entre eux ont alors été hébergés par les services de l'État. Les autres se sont construits des abris de fortune. Et voilà qu'après avoir survécu au cyclone, l'on s'apprête à les évacuer manu militari de leur refuge, le lycée Bamana. Indigné, Bobette renchérit.
Il y a la préfecture qui va venir ici avec les bus. On va entrer dedans, on va nous déplacer. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on va amener la police pour nous faire dégager. Si on va nous chasser avec la force.
Et de rappeler le gouvernement à ses engagements.
Nous, on sait seulement les paroles que monsieur le ministre avait dit. Il a dit que les gens qui sont hébergés dans des écoles, on va leur donner les abris. Maintenant, là, on est dit de quitter les lieux. Maintenant, où est l'abri que monsieur le ministre avait dit? C'est où?
Ce pourrait être à Petite Terre, sous des centaines de tentes, pour celles et ceux qui ne seront pas reconduits à la frontière.
Mathieu Laurent et Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux de France Culture à Mayotte. Lors de ses vœux aux Français hier soir, Emmanuel Macron a fait un mea culpa sur la dissolution pour appeler ensuite à un ressaisissement collectif et évoquant des choix à faire cette année pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Le chef de l'État a indiqué qu'il demanderait aux Français de trancher certains sujets déterminants. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Pas plus de détails de la part d'un président privé d'une grande part de son influence depuis les législatives anticipées perdues par son camp. Alors, à quel type de consultation faut-il s'attendre, Rosalie ? À un référendum, une convention citoyenne ?
Le sait-il lui-même, Emmanuel Macron ? Un référendum, des référendums, avec une question ou des questions. Il ne précise ni la forme, ni le fond, ni le calendrier. Mais le président laisse donc s'installer, comme régulièrement depuis 2017, l'idée d'une consultation référendaire à venir.
Il y a une intention de demeurer présent dans le jeu, de fixer de nouvelles échéances et donc de venir d'une certaine façon turbuler la scène politique française, là où, à mon avis, elle n'en a pas besoin.
Sauf que quel que soit le sujet, et c'est très encadré par la Constitution, on ne peut pas traiter de tous les domaines par référendum, ce sera de toute façon un autre débat qui sera tranché, estime le politologue Jean Petaut.
Les Français répondront à la question pour ou contre le maintien d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et même s'il ne se situe pas dans la configuration du général de Gaulle en 1969, qui, deux jours avant le scrutin, avait clairement dit aux Français « si le non l'emporte, je mettrai fin à mon mandat immédiatement », même si Emmanuel Macron n'entend pas faire cela, un référendum avec une réponse majoritairement négative, ce sera très difficile pour lui de faire comme si ce n'avait pas existé, comme Jacques Chirac a fait avec le non au référendum sur le traité constitutionnel européen en mai 2005.
Reste l'option des conventions citoyennes sur le modèle de celles déjà conduites sur l'écologie ou la fin de vie des Français tirés au sort qui planchent sur un sujet, rendent des conclusions, libre à l'exécutif de les suivre ou non et d'assumer derrière les déceptions ou frustrations.
Rosalie Lafarge. La situation politique instable depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron a freiné le marché de l'automobile. En 2024, les ventes de voitures neuves sont restées à un niveau très faible en France, 22% de moins qu'en 2019, la dernière année avant la pandémie de Covid-19. Et parmi les immatriculations de voitures neuves, les ventes de voitures électriques notamment, qui connaissaient auparavant une forte ascension, ont reculé de 2,2%. Alors ça s'explique bien sûr par des prix qui restent élevés, mais aussi, explique Flavien Neuvy, économiste de l'automobile à l'Observatoire CDLM, par le contexte économique alors que la France n'a toujours pas de budget.
On l'explique de plusieurs façons. La première raison, c'est que la voiture électrique reste malgré tout beaucoup plus chère que la voiture thermique qui elle-même se situe à des niveaux de prix très élevés. Et pour beaucoup de ménages, acheter une voiture électrique financièrement, ce n'est pas possible. Et pour ceux qui en auraient les moyens, ils préfèrent plutôt acheter des véhicules d'occasion plutôt que d'acheter des véhicules électriques neufs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur ces dernières années, il y a eu quelques événements contraires aussi qui ont pénaliser finalement la voiture électrique, notamment l'augmentation des prix de l'électricité. On a constaté qu'il y avait un certain nombre d'automobilistes qui se posaient la question de passer à l'électrique ou non. Et c'est vrai que l'augmentation forte des prix de l'électricité a pu dissuader certains automobilistes de passer à l'acte. Alors ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais simplement c'est des projets qui ont été finalement un petit peu décalés. Et ça a généré beaucoup d'attentisme chez les automobilistes. Sur la voiture électrique, très clairement, il faut qu'il y ait des offres de voitures électriques moins chères, avec des véhicules qui sont moins chers, qui ne sont pas à 40 000 euros, parce que là, c'est hors de prix. Le deuxième élément, il est beaucoup plus global. Ça dépendra du contexte économique. On le sait, on est dans une période d'incertitude politique. qui pénalise l'économie. D'ailleurs, on l'a vu en 2024, le marché automobile a commencé à reculer à partir de l'été, à partir du moment où il y a eu cette instabilité politique qui génère de l'incertitude et donc de l'attentisme. Et évidemment, tout cela n'est pas favorable à l'économie d'une façon générale. Et quand c'est pas favorable à l'économie, c'est pas favorable à l'industrie automobile. Les ventes de voitures sont très corrélées à la croissance économique.
L'économiste Flavien Neuvy, interrogé par Hakim Kasmi. Ce 1er janvier marque la fusion de l'IRSN, expert technique de la sûreté nucléaire, avec l'ASN, le gendarme du nucléaire. Cette réforme a été décidée à l'Élysée en 2022 dans l'optique de fluidifier les décisions en vue de la relance d'un programme nucléaire. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Alors la réforme prend effet aujourd'hui, mais malgré de fortes oppositions.
Oui, vous l'avez dit, cette réforme a été imaginée début 2022 par l'Élysée sans aucune concertation et définitivement donc votée cette année. Au mois d'avril, cette fusion des deux entités en une seule continue d'inquiéter les syndicats, les experts du nucléaire, les associations et aussi les élus très divisés sur le sujet. La bataille parlementaire a été très rude. Le gouvernement a d'abord tenté d'introduire sa réforme par voie d'amendement dans le projet de loi d'accélération du nucléaire. Il s'est heurté à un premier rejet de l'Assemblée nationale. C'était début 2023, avant de revenir à la charge quelques mois plus tard via un projet de loi consacré à la réforme de la sûreté nucléaire. L'intersyndicale de l'IRSN a manifesté à de nombreuses reprises alertant sur le risque pour la sûreté nucléaire que fait peser en pleine relance du nucléaire la désorganisation d'un système. Un système donc à deux entités qui avait fait ses preuves, qui avait vu le jour après la catastrophe de Tchernobyl dans un souci de plus de transparence et de sérieux. On se souvient des mensonges des autorités nucléaires à l'époque, c'était en 1986, du nuage radioactif de Tchernobyl miraculeusement stoppé aux frontières françaises. Alors les opposants au projet, à ce projet de fusion craignent depuis le début une possible perte d'indépendance des experts et un retour aussi d'opacité dans le processus de décision du nucléaire, alors que l'Élysée et le gouvernement bien défendent au contraire l'idée de fluidifier les décisions au moment de cette relance du programme nucléaire français. Dans un communiqué publié hier, plusieurs syndicats de l'IRSN évoquent un rapide problème de financement de la nouvelle autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ce sera dès février, disent-ils, en l'absence d'adoption du budget 2025.
Merci. Véronique Rebérotte, ce 1er janvier, c'est aussi une date attendue avec un peu d'appréhension par les chefs d'entreprise, commerçants ou auto-entrepreneurs, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus réaliser les formalités administratives liées à la vie de leur entreprise que sur un seul site. Le guichet unique lancé il y a 2 ans par le gouvernement est géré par l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Un guichet unique censé simplifier la vie des entreprises, mais qui a surtout été jusque-là synonyme de galère pour les acteurs de l'économie française, Camille Magnard.
En principe, ce guichet unique, il devait être pleinement opérationnel au 1er janvier 2023. Mais l'État, constatant ses nombres ratés, avait demandé au site Infogreffe de reprendre du service. Victor Geneste est le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui gère Infogreffe.
En 2024, on a plus d'un million de formalités passées sur la procédure de secours Infogreffe. Nous, on considère qu'il y a encore énormément de dysfonctionnements, énormément de bugs aussi côté INPI. Les taux de réclamation et les taux de refus sont encore extrêmement élevés.
Ils ont la dent dure, les greffiers des tribunaux de commerce aussi, parce que ce guichet unique géré par l'INPI, organisme public, les prive en ce 1er janvier de revenus très conséquents générés par Infogreffe. Et si du côté des organisations patronales, la CPME note qu'il y a toujours des dysfonctionnements importants sur le guichet unique, l'UDP et son vice-président Michel Picon se veulent rassurants sur la capacité de l'INPI à gérer seul toutes les formalités.
Je n'ai pas été le dernier à les critiquer sévèrement. J'ai quand même le sentiment là que depuis quelques mois, les choses s'arrangent. Je vois bien le retour de nos entreprises ou les appels au secours. Chaque jour, ils diminuent. On est, me semble-t-il, sur la bonne voie.
Et ce n'est pas François-Xavier de Beaufort qui le contredira. Il pilote le chantier guichet unique pour l'INPI.
En 2024, plus d'un million de formalités et de modifications ont été réalisées sur le guichet unique. On a vu quasiment toutes les situations. On peut être confiant sur le fait que le guichet unique sait absorber ce flux et ces différentes catégories de formalités aujourd'hui.
L'INPI rappelle que son guichet unique a enregistré en 2024 4,2 millions de formalités, soit 100% des créations d'entreprises en France et 90% des cessations d'activité.
Près de 1000 véhicules ont été incendiés et plus de 400 personnes ont été interpellées en France lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, indique le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas le droit de nous résoudre à ce décompte annuel toujours trop lourd, commente Bruno Retailleau, qui ajoute ces violences sont le produit d'un ensauvagement. Il dénonce des lâches, des voyous qui s'en prennent aux biens des Français souvent modestes. La météo, le mauvais temps progressera demain. Il s'étendra au quart nord-est le matin avec de la pluie, voire des flocons. L'après-midi, il se généralisera avant une accalmie le soir au nord de la Loire. Le matin, les gelées concerneront surtout le sud-ouest. Il fera l'après-midi entre 4 et 7 degrés sur le tiers nord du pays, entre 7 et 15 degrés ailleurs.